اتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 13 septembre 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Pyongyang aux côtés de Moscou dans la lutte contre l'impérialisme. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Iran a pleine autorité sur les fonds débloqués et les dépenses là où il en a besoin, a insisté le président Raïsi. Au moins deux colons israéliens ont été blessés à la suite d'une opération de tir palestinienne en Cisjordanie occupée. Et puis au Yémen, le gouvernement du Salut national donne la dernière chance aux agresseurs. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le processus de transfert des avoirs iraniens récemment dégelés en Corée du Sud devrait être achevé dans les prochains jours. Le président Ebrahim Raïsi a réaffirmé que la République islamique avait l'autorité sur la manière de dépenser les fonds. Raïsi affirme que l'argent appartient au peuple et au gouvernement iranien et qu'il sera dépensé partout où il sera nécessaire. Il a fait ses commentaires dans une interview exclusive avec NBC News. Le département d'État américain a confirmé que le secrétaire d'État Antony Blinken avait signé une dérogation autorisant le transfert de fonds gelés iraniens depuis la Corée du Sud vers le Qatar. Les actifs iraniens avaient été bloqués par Séoul en 2018 en raison des sanctions extraterritoriales américaines. Les médias américains avancent que cette dérogation fait partie d'un accord plus large entre l'Iran et les États-Unis qui comprend également l'échange de prisonniers. Téhéran nie tout lien entre les deux affaires. Dans son discours, le président iranien a déclaré que les 5 détenus américains qui devraient être échangés contre 5 Iraniens emprisonnés illégalement aux États-Unis sont en pleine santé. Le président iranien a également évoqué les émeutes qui ont duré plusieurs mois et qui ont éclaté en Iran en septembre dernier. Ebrahim Raisi a accusé les États-Unis et certaines puissances européennes et occidentales d'alimenter les troubles. Les émeutes ont éclaté après la mort d'une jeune iranienne à l'hôpital quelques jours après s'être effondrée dans un commissariat de police. Une enquête médico-légale a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait été battue au poste de police et attribué sa mort à un problème de santé sous-jacent. L'Iran et l'Irak ont exprimé leur volonté de mettre en œuvre un accord de sécurité mutuelle visant à éradiquer le terrorisme de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et son homologue irakien Fouad Hussein ont réitéré cet engagement lors d'une conférence de presse conjointe ce mercredi à Téhéran. Amir Abdollahian a déclaré avoir évoqué l'accord de sécurité signé entre les deux pays début 2023. Il a également salué les efforts de Bagdad pour relocaliser et désarmer les terroristes basés proche de la frontière irako-iranienne. Le plus haut diplomate irakien a déclaré que Bagdad ne permettrait pas aux terroristes d'attaquer l'Iran en utilisant les territoires irakiens. Il a également noté que l'accord sera pleinement mis en œuvre d'ici quelques jours. Le ministre iranien de la Défense a réitéré que son pays n'accepterait aucun changement géopolitique dans la région. Le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani a émis cet avertissement après qu'une délégation iranienne de haut rang de la Défense se soit rendue en Azerbaïdjan pour des entretiens avec des autorités compétentes. Il a toutefois assuré qu'aucune guerre n'éclaterait dans la région. Il a souligné que la position de l'Iran sur les développements régionaux est très claire. Cela survient dans un contexte de tensions croissantes entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Iran a maintenu sa neutralité dans le conflit tout en soulignant que le territoire contesté devrait être restitué à leur véritable propriétaire. L'Iran a également mis en garde contre tout mouvement militaire le long des frontières du pays. L'Australie a imposé de nouvelles sanctions contre un certain nombre de personnes et d'entités iraniennes pour ce qu'elle appelle des violations des droits de l'homme. La dernière série de restrictions comprend des restrictions financières et des interdictions de voyage. La chaîne d'information iranienne de langue anglaise, Press TV, fait partie des entités placées sur la liste noire. Il s'agit de la 4e série de sanctions anti-iraniennes imposées par l'Australie depuis décembre 2022. L'Iran a toujours critiqué les sanctions illégales imposées principalement par l'Occident, affirmant qu'elles portent gravement atteinte aux droits de la nation iranienne. Téhéran a fustigé à maintes reprises l'Occident pour avoir adopté des approches à double standard sur les questions des droits de l'homme ainsi que de la liberté d'expression. Au moins 2 colons israéliens ont été blessés à la suite d'une opération de tir palestinienne en Cisjordanie occupée. La fusillade a eu lieu dans la ville de Ouavara, au sud de la Pelouse. Un Palestinien a ouvert le feu sur des colons israéliens alors qu'ils circulaient dans la zone. Les médias israéliens affirment que l'un des blessés est dans un état critique. La brigade Al-Fajr a revendiqué la responsabilité de l'opération. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué l'opération, la qualifiant de partie de la lutte visant à expulser le régime occupant de la terre palestinienne et à défendre les lieux saints. La Cisjordanie subit depuis plusieurs mois des raids presque meurtriers des troupes du régime israélien dans les quartiers palestiniens. Les Palestiniens mènent des opérations de tir ou des attaques au couteau contre des Israéliens en représailles aux atrocités du régime. Le gouvernement du Salut national du Yémen a averti la coalition dirigée par l'Arabie saoudite que la période actuelle est la dernière chance pour elle de prendre des mesures pour résoudre la crise dans le pays. Le premier ministre Abdulaziz bin Abtour a déclaré que le Yémen attendrait jusqu'en octobre avant de prendre une décision et des mesures appropriées face à cette situation critique qui le touche. Ces remarques font écho à celles du leader du mouvement populaire et révolutionnaire Ansar Allah, Abdulmalik al-Houssi. Bin Abtour a déclaré que les gouvernements précédents du Yémen dépendaient fortement des revenus pétroliers et gaziers qui représentaient 75% de leur budget. Il a noté que toutes les sources de revenus sont actuellement contrôlées par les forces d'occupation. Il a ajouté que la coalition devrait prendre des initiatives et sortir de la guerre. L'Arabie saoudite a lancé une guerre contre le Yémen en 2015. La guerre a entraîné la mort de dizaines de milliers de Yéménites et a transformé le pays en théâtre de la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Pyongyang, aux côtés de Moscou dans la lutte contre l'impérialisme. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un alors que les deux pays élargissent leur coopération bilatérale sur divers plans. Poutine et Kim se sont rencontrés mercredi 13 septembre lors d'un sommet au centre spatial Vostochny Cosmodrome dans l'oblast de l'Amour à l'extrême est de la Russie. Les deux hommes se sont serrés la main pendant 40 secondes à l'extérieur du cosmodrome de Vostochny. Alors qu'ils se saluaient sur le site, Poutine s'est dit très heureux de voir de nouveau Kim. Le dirigeant nord-coréen a quant à lui remercié Poutine d'avoir invité la délégation nord-coréenne malgré son emploi du temps chargé. Kim Jong-un a remercié Vladimir Poutine pour son accueil et souligné que les relations avec la Russie étaient de la plus haute importance pour Pyongyang. « Je suis sûr que nous resterons unis pour lutter contre l'impérialisme », a-t-il ajouté avant que l'entretien ne débute. Le président russe a cité la coopération économique, les questions humanitaires et la situation dans la région parmi les points à l'ordre du jour de leurs entretiens. À la question de savoir si la Russie aiderait Kim à construire des satellites, Poutine a répondu « C'est pour cela que nous sommes venus ici. Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée montre un grand intérêt pour l'ingénierie des fusées. Ils essaient également de développer l'espace. » Après avoir visité des installations du cosmodrome de Vostochny, notamment un atelier de l'assemblage de fusées russes, Angara, de nouvelle génération, les deux hommes ont mené des discussions qui se sont achevées après plus de 2 heures. Les experts estiment également que le dirigeant nord-coréen cherche à attirer l'assistance technique de la Russie pour développer des satellites spatiaux et militaires. La réunion qui, selon Moscou et Pyongyang, vise à élargir la coopération dans divers domaines est étroitement surveillée par les États-Unis et leurs alliés. Les inquiétudes internationales sur un éventuel accord d'armement entre Moscou et Pyongyang se multiplient. Washington a affirmé disposer de renseignements indiquant que les négociations entre Poutine et Kim sur un accord sur les armes avançaient rapidement. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a allégué que le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, aurait tenté de convaincre Pyongyang de vendre des munitions d'artillerie à la Russie lors de sa récente visite en Corée du Nord. Le Kremlin a déclaré que la visite de Kim porterait sur les relations bilatérales, la situation régionale et internationale. Le dirigeant coréen a indiqué que sa visite en Russie mettait en évidence l'importance stratégique des liens entre Pyongyang et Moscou, ont rapporté les médias d'État nord-coréens. Kim a déclaré à Poutine que son pays offrait son soutien total et inconditionnel au combat sacré de la Russie pour défendre ses intérêts de sécurité. Il a déclaré que Pyongyang continuerait à se tenir aux côtés de Moscou sur le front anti-impérialiste. Récemment, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie agirait toujours dans son intérêt national. Les intérêts de nos deux pays sont importants pour nous et non les avertissements de Washington, a déclaré Peskov, cité par les médias russes. Poutine et Kim se sont rencontrés pour la dernière fois en 2019 dans la ville de Vladivostok, à l'extrême est de la Russie, à environ 680 km au nord de Pyongyang, après l'échec des négociations bilatérales sur la dénucléarisation avec le président américain de l'époque, Donald Trump. Quelques heures seulement avant la rencontre du dirigeant Kim Jong-un avec le président Vladimir Poutine en Russie, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistique au large de sa côte est. Il s'agit du premier lancement de ce type à avoir lieu alors que Kim était à l'étranger pour un voyage rare, ont indiqué les analystes. Fascinant, un lancement sans Kim Jong-un dans le pays, une première, a écrit l'analyste américain Ankit Panda sur X. À partir de 2019, Kim Jong-un a cessé d'assister à chaque lancement annoncé et parfois sa présence a été délibérément masquée, a écrit Pandit. Il existe un précédent pour les lancements sans Kim, mais pas sans Kim dans le pays, a-t-il dit.
Bonjour à tous, bienvenue ici sur les plateaux de Press TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Le nouveau numéro du débat que je vous propose aujourd'hui étant sur donc le sommet G20 avec notamment comme invité très spécial l'Union africaine, c'est le sujet du débat d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord, comme le veut notre format, un reportage qui résumera un peu la situation de ce sommet pour par la suite en débattre avec nos deux invités que nous avons choisis pour vous aujourd'hui. Tout de suite, je vous propose notre reportage.
Le ministre Sergueï Lavrov a répondu à la presse à l'issue du sommet du G20, livrant ses impressions sur une déclaration plus équilibrée et sur la volonté des pays du Sud à ne pas se laisser dicter leur conduite par l'Occident. La présidence indienne du G20 a consolidé les relations avec les pays du Sud, a salué Sergueï Lavrov le 10 septembre lors d'une conférence de presse, soulignant que nos amis indiens avaient travaillé avec honneur. Le diplomate russe a fait valoir que plusieurs pays membres œuvraient à la défense de leurs intérêts, permettant ainsi d'éviter que les pays occidentaux ukrainisent tout le débat aux dépens des pays émergents. Le ministre russe des Affaires étrangères a ensuite estimé qu'un mouvement de l'avant pouvait être observé au G20, remettant en cause l'hégémonie occidentale. La teneur de cette année était la consolidation des pays du Sud, a-t-il estimé, ajoutant que ces derniers avaient une bonne compréhension de ce qui se passe en Ukraine. Lavrov a déclaré que les pays du Sud avaient une bonne compréhension de ce qui se passe en Ukraine. Aussi a-t-il rapporté que le document, fruit d'un compromis, avait été rédigé après 200 heures de négociations. 90% a été validé avant le sommet, a-t-il ajouté. Les Sherpas ont été enfermés dans une pièce comme pour l'élection du pape. A-t-il de surcroît plaisanté, Kiev a fait part le 9 septembre de sa déception face au texte. L'Ukraine est reconnaissante envers les partenaires qui ont essayé d'inclure une formulation forte dans le texte. En même temps, en ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G20 n'a pas de quoi être fier, a déclaré un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Alors tout de suite, d'abord la venue de notre premier invité, M. Bernard Cornu, analyste politique, également auteur de plusieurs articles. Bonjour M. Cornu, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous.
Alors, Monsieur Cornu, commençons donc tout de suite donc concernant ce sommet du G20. Ça s'est conclu, donc c'est la fin du G20 et finalement cette volonté, comme dit leur propagande, d'avoir un monde uni, d'avoir un monde frère, ça fait comme à demi-teinte parce que finalement, même s'il y a eu cette réunion et qu'il n'y a pas eu officiellement de désaccord, il y a beaucoup de dossiers encore qui non résolus au niveau des pays internationaux ne sont pas forcément d'accord entre eux, des conclusions sur certains dossiers, M. Cornu.
Oui, tout à fait. Les grands problèmes graves de l'humanité, les problèmes entre les nations, les problèmes vis-à-vis des peuples sans État, ils ont été mis sous le tapis, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été abordés, au moins en tout cas, pendant la déclaration finale, qui est très longue et qui a cherché à être consensuelle, à être adoptée par tout le monde. Comme d'ailleurs dans les rapports finaux de synthèse du GIEC, tous les vrais problèmes qui sont parfois connus des spécialistes ne sont pas vraiment abordés. On n'a pas le problème d'occupation de la Palestine, on n'a pas abordé le problème de la suprématie du dollar et de l'abus du droit du dollar, enfin des États-Unis, dès qu'on utilise le dollar. Et je constate d'ailleurs que le dollar est la seule monnaie qui est évoquée dans tous les 30 ou pages ou les 83 paragraphes de la déclaration. Donc tant que ceci n'est pas remis en cause, cette domination du dollar, cet abus de pouvoir du dollar, les choses ne vont pas changer, les injustices. D'ailleurs, le mot « justice internationale » n'est pas du tout évoqué. On évoque parfois le droit international, mais on n'évoque pas les modalités d'application du droit international. Et aussi, on n'a pas défini le terrorisme, et il est évoqué, les moyens de lutte contre le financement occulte du terrorisme sont évoqués, mais comme le terrorisme lui-même n'est pas défini, on n'a pas encore de solution pour mettre fin au terrorisme d'État.
Merci, Monsieur Cornu. C'est vrai que les mots comme terrorisme, d'un point de vue de la narration, en fait, est très très différent d'un pays à l'autre. En Europe, ça sera plus utilisé dans le commun des mortels, en fait, comme un acte violent, quelle que soit la justice qu'il y a derrière. Donc, par exemple, les Palestiniens, malheureusement, sont associés à des terroristes. Les Palestiniens qui essayent tout simplement de faire sortir leurs occupants. Il y a aussi un autre sujet qui n'a pas réussi à être abordé, alors que l'Europe, l'Occident le voulait. C'était la question ukrainienne. Les Indiens ne se sont pas laissés faire. On sait que les Indiens, depuis le début, ne sont pas d'accord avec la version européenne occidentale de la guerre entre l'Ukraine, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et finalement, à la fin du G20, l'Inde est restée sur sa position.
Oui, tout à fait. Enfin, la guerre en Ukraine est évoquée, même d'ailleurs assez tôt dans la déclaration, mais sans condamnation d'une partie ou de l'autre, donc sans évoquer, disons, les origines telles qu'elles peuvent être vues par la Russie et telles qu'elles sont vues par l'Ukraine et par les pays occidentaux, par l'OTAN. Donc les détails des raisons de cette guerre ne sont pas du tout évoqués.
Ça va plus loin, hein, parce que plusieurs pays à l'heure actuelle disent que non seulement le sujet réel du conflit ukrainien et russe n'est pas admis, mais ils confortent l'argumentaire russe en disant si les Européens et les Occidentaux arrêtaient de donner des armes à l'Ukraine, le conflit serait déjà arrêté, on serait déjà à la table de négociation. C'est vers ça, plutôt que les pays internationaux vont en disant « Ok, si c'est ce conflit ne nous regarde pas », il s'avère que la diplomatie est la seule solution. Il reproche aux Occidentaux, en fait, d'aller alimenter cette guerre.
Oui, c'est ça, c'est toujours dans les discussions de chaque pays ou dans les discussions orales, mais dans la déclaration, le soutien n'est pas vraiment évoqué. Le soutien des pays occidentaux à la guerre n'est pas vraiment évoqué. Donc, on évoque surtout les conséquences dramatiques pour les populations civiles, qui sont d'ailleurs les actions militaires contre les populations civiles sont condamnées dans d'autres paragraphes de la déclaration, mais sur la guerre elle-même en Ukraine, les choses ne sont pas très précises.
Merci.
Pour éviter justement d'afficher les divergences entre les différents membres du G20.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, notre deuxième invitant étant Monsieur Luc Michel, analyste politique, notamment concernant l'Afrique. Bonjour, Monsieur Luc Michel. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Je suis aussi ravi. Bonjour et bonjour à Monsieur Cornu.
Alors, Monsieur Luc Michel, on parlait donc du G20. On peut expliquer que la situation n'était pas une seule même famille, comme le veut l'argumentaire du G20. La conclusion s'est faite avec un discours en demi-teinte. Il y a aussi un autre fond qu'on a pu sentir au G20. C'est l'Inde qui change de nom en plein G20, c'est-à-dire au plein début du G20. C'est annoncé, non pas avant, non pas après, mais en plein G20, où il a indiqué que l'Inde ne voudrait plus s'appeler l'Inde, mais voudrait s'appeler Bharat, qui en fait l'explication, l'argumentaire est indiquant que l'Inde étant un nom colonial. Alors c'est un message fort hein, pour les autres pays dominés, qui ont été dominés par la colonisation. Vous-même, Luc Michel, très intéressé, analyse politique concernant l'Afrique, qu'en pensez-vous?
Mais on est tout à fait devant la fin du monde néocolonial. La division du monde en division néocoloniale est terminée évidemment. L'Inde prend une position fortement symbolique.
Alors, Monsieur Cornu, pour revenir à ce que vous disiez, les propos que vous disiez concernant donc le dossier russe. Donc, non seulement l'Inde se montre comme étant inquisiteur concernant les Occidentaux face au dossier ukrainien, mais en plus l'Inde va plus loin en disant nous voulons complètement fermer le dossier colonial en changeant complètement de nom. Alors, ça montre bien qu'il explique que le monde doit faire avec les autres pays que les pays occidentaux. Qu'en pensez-vous de ce genre d'analyse?
Évidemment, l'Inde, colonisée par les Anglais il y a plus de 3 siècles, très dominée pendant très longtemps jusqu'à l'indépendance, après la Deuxième Guerre mondiale, après la longue lutte pacifique de Gandhi et d'autres pour obtenir l'évacuation des troupes britanniques, enfin de l'Empire britannique. C'est vrai que c'est la démarche est symbolique et face pour un pays qui a été la plus grande colonie du monde et qui a été la source de richesses considérables de l'Empire britannique et qui a fait que, d'ailleurs, l'Empire britannique a voulu récupérer des Français le canal de Suez pour protéger les routes commerciales de cet empire qui était sa source principale de richesses. Et même pour la Première Guerre mondiale, la motif protéger cette route maritime était très important comme une raison des Britanniques, de l'Empire britannique d'entrer en guerre aux côtés de la France et de la Russie. Donc cette décision symbolique de l'Inde de changer de nom, de reprendre un nom, disons, local, ancien, est une manière de dire que le colonialisme des empires européens et américains et sans doute aussi en partie de l'Empire russe, tsariste, est une des sources des déséquilibres actuels, de la pauvreté ou du retard de certains pays, et qui doit être compensée de la même façon que dans la dernière COP en Égypte, on a posé le principe de créer un fonds pour compenser les dégâts et les préjudices des actions climatiques, des conséquences, disons, des abus de consommation, d'énergie et d'autres, de pollution, des pays occidentaux depuis des centaines d'années.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, Monsieur Luc Michel, qu'est-ce que vous pensez donc de ce sommet du G20? Est-ce qu'un message ou est-ce qu'un dossier ou quelque chose d'intéressant pour finalement le monde entier a pu en sortir? Sachant quand même qu'on est en pleine inflation pour le monde entier, problème de nourriture, problème d'énergie, il y a quand même pas mal de dossiers extrêmement épineux. Est-ce que finalement le G20 est allé en avant?
Mais l'Occident a pris conscience du fait qu'il avait perdu la guerre en Ukraine. La Russie a gagné militairement. Elle a gagné surtout la guerre économique. Les Saoudiens et les Russes ont pris le contrôle du marché mondial des hydrocarbures que les Américains contrôlaient depuis 2015. Et les Russes maintenant contrôlent également le marché du blé. Ce que l'Occident a pris conscience, c'est qu'il n'avait pas la négocier. Et c'est donc cette position accommodante vis-à-vis de la Russie.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Bernard Cornu, on sait, donc je viens d'indiquer pour le sujet de l'énergie, on sait que l'hiver va commencer, la situation énergétique n'a toujours pas été modifiée, ne s'est toujours pas améliorée. Est-ce que et finalement les pays comme l'Inde ou la Chine ou d'autres gros pays ont déjà leurs fournisseurs, ne sont pas finalement impactés par cette crise de l'énergie, contrairement au monde occidental, notamment ce qui s'est passé en Afrique avec le Niger qui décide de vendre son uranium plus cher. On ne sait pas encore pour la situation gabonaise, mais ça ne semble pas meilleur. Qu'est-ce que vous avez envie d'en parler quand on voit donc cet Occident face au G20 avec d'autres pays, avec cette invitation de l'Union africaine, mais finalement qui ne représente qu'une toute petite partie de l'Afrique?
Disons, évidemment, le sujet de la transition énergétique est abordé abondamment dans beaucoup de paragraphes de cette déclaration. On peut noter aussi que cette déclaration dénonce des mesures discriminatoires, des mesures d'empêchement du transit de l'énergie, du commerce de l'énergie. Donc ceci est finalement une position qui rejoint la position russe et qui, celle de l'Inde, de la Chine, de dénoncer les sanctions qui ont été mises à la Russie, mais sans que ce lien soit explicite. Donc le problème, effectivement, c'est ce vœu pieux de dénoncer les mesures discriminatoires, les interdictions ou les limitations au commerce de l'énergie, au transit de l'énergie. Le problème, c'est comment les faire adapter, comment résoudre la contradiction entre cette position de principe, cette déclaration de tous les pays, donc y compris les États-Unis ou l'Angleterre, ou même la France qui applique ces sanctions, et ce principe de liberté totale de la circulation du marché de l'énergie. Donc le problème n'est pas posé. Et donc il reste c'est une contradiction interne non explicitée entre la réalité stratégique, la réalité de cette guerre en Ukraine, de cette position de la Russie et des Occidentaux, de l'OTAN, et l'affirmation de la nécessité d'une liberté du commerce de l'énergie. Alors l'Inde a profité parce que il est bien connu que la Russie a pu vendre beaucoup de quantités de pétrole brut pour qu'il soit transformé en carburant par l'Inde, qui a des capacités de raffinerie importantes et qui a pu revendre les produits raffinés assez massivement aux pays qui en avaient besoin, donc à des tarifs sans doute inférieurs aux cours mondiaux tels qu'ils peuvent être définis normalement à Rotterdam pour les carburants.
Monsieur Luc Michel, vous qui suivez beaucoup, donc, à cause du sujet africain, les anciens pays coloniaux, est-ce que vous pensez que le front Chine-Russie et Inde s'est fait ressentir? On n'oublie pas, font partie des BRICS. Ils ont fait l'élan des BRICS. Est-ce que on a ressenti, en fait, cet élan de ces trois pays dans ce G20?
Oui, en même temps, on n'est pas à une tentative de contre-offensive de l'Occident. Lorsque l'Occident fait adhérer l'Union africaine au G20, c'est un piège pour les Africains, puisqu'il s'agit de les lier à l'économie occidentale. C'est cela qu'il faut constater. C'est que les Européens et les Américains ne quitteront pas pacifiquement l'Afrique. On se prépare à une décennie de combat pour le contrôle de celle-ci.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Cornu, vous êtes d'accord avec les propos de Luc Michel? Vous êtes d'accord sur, quand je pose la question, on a pu ressentir un front entre la Chine, la Russie et l'Inde, tous trois faisant partie des BRICS, même l'élan lancé. Est-ce que vous êtes d'accord au fait que ça s'est ressenti durant le G20?
Oui, je pense que quand on voit la déclaration précisément, on voit bien que, disons, les tenants de l'Occident, disons les États-Unis, l'Angleterre, la France et quelques autres pays, l'Italie, n'ont pas pu imposer ce qu'ils auraient voulu imposer. En revanche, on voit par exemple dans un exemple, quand il y a une condamnation de la force de la guerre, disons, pour conquérir des territoires, c'est le mot « État » qui est prononcé. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, l'État israélien pourrait argumenter que la condamnation ne parle pas de territoire palestinien, puisqu'ils vont dire qu'il n'y a pas encore d'État palestinien pour les Israéliens, et donc il ne peut pas être condamné. Donc il y a des problèmes très précis de vocabulaire. J'ai déjà cité ce problème de définition du terrorisme. Moi, j'ai des journaux turcs dans lesquels, en première page, j'ai marqué « Israël, État terroriste ». Beaucoup de gens dans le monde le disent. Moi-même, je dis que les dirigeants américains, les dirigeants anglais du temps de Cameron et même certains dirigeants français, le sieur Sarkozy, doivent être condamnés pour terrorisme d'État, pour des violations flagrantes, des manipulations de l'opinion envers des États qui ont été détruits, fragilisés, agressés. Et ceci, c'est pour ça que dans la devise même de la conférence, qui est sympathique, c'est une seule planète, une seule famille, un même avenir. Il n'y a pas le mot justice. Bon, pour moi, l'essentiel est d'avoir la même justice pour l'ensemble de la planète. Et c'est ça qu'il faut faire, à mon avis, avoir une application du droit international qui soit universelle.
Oui, mais est-ce que, dans ce cas-là, vu que c'était l'un de l'autre, est-ce que ce n'est pas donc un message pour dire qu'il n'est pas envisageable pour l'instant d'imposer ou de mettre la justice, puisque les États entre eux ne sont même pas d'accord sur la manière de percevoir l'importance d'un peuple sur l'autre?
Les États ne sont évidemment pas d'accord, hein, mais disons les discussions progressent, ou surtout le rééquilibrage des pouvoirs, comme vient de dire mon collègue depuis la Belgique, est en train de se faire. Donc l'Occident n'a maintenant plus le monopole du pouvoir, le monopole de la vérité, le monopole de la communication. Bien des pays maintenant du Sud global ont des moyens satellitaires de communication, commencent à avoir des agences de presse importantes, comme l'agence par exemple de presse Anadolu en Turquie. Je ne la félicite pas pour tout ce qu'elle fait, mais elle existe et elle permet de répondre aux manipulations de l'opinion telles qu'on les a vues dans les périodes préparatoires à la guerre de 2003 envers l'Irak ou d'autres guerres envers la Libye. Donc ce rééquilibrage des pouvoirs de communication, des pouvoirs financiers, des pouvoirs humains, des pouvoirs scientifiques, des capacités scientifiques est en cours. Et comme l'a dit mon collègue, il est clair maintenant que l'Occident a perdu son hégémonie principale.
Et qu'est-ce que vous pensez que vont faire les autres peuples, c'est-à-dire ceux qui ont été toujours mis en bas de la société au niveau du monde, au niveau international, qui là, avec ce regain en fait de révolution qui est à l'heure actuelle, notamment sur le continent africain, mais également d'autres actes forts comme l'Inde qui essaie de reprendre son nom passé, est-ce que cet élan va perdurer dans le temps? Est-ce que dès que la crise avec l'Ukraine va s'estomper et que les taxes vont être payées, c'est-à-dire les impôts, les dettes que l'Europe doit du fait de cette guerre, mais également avant, est-ce que vous pensez que c'est une chose que les États vont pouvoir garder?
Ben, disons, ces actes symboliques de non, ils vont perdurer. Et je pense que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur cette adoption prochaine d'un nouveau nom pour l'Inde. Mais il y a quelques décennies déjà, le président Sankara avait changé le nom pour appeler son pays Burkina Faso, donc renoncer à des dénominations anciennes de l'époque coloniale. Donc les Palestiniens disent notre capitale sera Al-Quds, et ils évitent de dire Jérusalem. Quand ils parlent de la ville, ce qu'on appelle Hébron dans la presse occidentale, ils disent Al-Khalil. Donc tous ces gestes symboliques font progresser la conscience internationale. C'est déjà très lent, ça devrait aller plus vite. et il faudra qu'il y ait des relais de communication beaucoup plus forts pour montrer aux gens, disons, de cette perception du monde, au lieu de, d'être dans l'ordinateur, dans leur téléphone portable et de regarder des choses sans importance, mineures, il faut que les gens s'intéressent à la situation du monde, à la résolution des conflits, et voient que seule l'émergence d'une justice internationale, d'une police internationale, est la clé pour résoudre définitivement ou le plus rapidement possible les conflits en cours.
Merci Monsieur Cornu. Je remercie à nos deux invités, donc je rappelle Monsieur Bernard Cornu et Luc Michel pour leur intervention aujourd'hui à notre sujet du débat qui concernait donc le sommet G20 dont l'hôte était l'Inde, donc Bharat. Je vous remercie chers auditeurs, à vous de nous suivre. N'hésitez pas à voir ou à revoir notre programme ou nos programmes sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet du débat ici sur les plateaux de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le président iranien Ebrahim Raisi a souligné la pleine autorité de l'Iran sur ses actifs récemment libérés, soulignant que c'est la République islamique qui décide comment dépenser les fonds et que l'argent sera dépensé là où nous en aurons besoin. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision américaine NBC dans la capitale Téhéran, mardi 12 septembre, le président Raisi a évoqué l'accord du mois dernier entre l'Iran et les États-Unis visant à échanger des prisonniers et à obtenir la libération de 6 milliards de dollars de fonds iraniens restés bloqués dans deux banques sud-coréennes depuis 2018 en raison de la pression américaine sur Séoul. L'administration du président américain Joe Biden avait affirmé à l'époque que les fonds et les bénéfices des ventes de pétrole iranien à la Corée du Sud ne pouvaient être dépensés qu'à des fins humanitaires. Raisi a déclaré lors de l'interview que l'Iran aurait l'autorité sur la manière dont les fonds seraient dépensés, soulignant « Cet argent appartient au peuple et au gouvernement iranien, donc la République islamique d'Iran décidera de ce qu'elle doit faire de cet argent ». Par ailleurs, il a souligné que les détenus américains en Iran étaient en très bonne santé et rentreraient bientôt chez eux. L'accord d'échange de prisonniers sera mis en œuvre à la date prévue. Des documents judiciaires récemment dévoilés ont confirmé publiquement que le gouvernement américain avait volé près d'un million de barils de pétrole brut iranien sur le pétrolier géré par la Grèce, le MT Suez Rajan. Le département d'État a déclaré vendredi 8 septembre que le gouvernement américain avait saisi le navire et sa cargaison de 980 000 barils de pétrole brut, alléguant qu'il transportait du pétrole iranien vers la Chine en violation des sanctions de Washington contre Téhéran. Il a en outre affirmé que le gouvernement américain avait obtenu un mandat plus tôt cette année pour sa saisie. Le 19 avril, au moment de la saisie, le propriétaire du navire, Suez Rajan Ltd, a plaidé coupable de violation des sanctions et a été condamné à une amende de 2,5 millions de dollars. Par la suite, l'exploitant du navire grec, Empire Navigation, a accepté de coopérer avec les autorités américaines et a ordonné au navire, alors situé en Asie du Sud-Est, d'acheminer son chargement de pétrole vers les États-Unis.
Après avoir été stationné au large des côtes du Texas pendant des mois, le Suez Rajan a commencé le 21 août le transfert de son pétrole de navire à navire pendant des heures vers un autre pétrolier, le MR Euphrate. Les documents judiciaires récemment publiés confirment que le gouvernement américain a ensuite saisi le pétrole. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la présence de terroristes dans la région du Kurdistan irakien viole la constitution du pays arabe et n'était pas en harmonie avec les relations cordiales entre Téhéran et Bagdad. Amir Abdollahian a fait cette déclaration lors d'une réunion avec Wafel Talabani, chef de l'Union patriotique du Kurdistan irakien, UPK, lundi 11 septembre à Téhéran. Cette rencontre a eu lieu avant la date limite fixée par l'Iran et l'Irak pour désarmer et déplacer les groupes terroristes basés dans la région semi-autonome du Kurdistan. La présence de terroristes dans la région du Kurdistan et leurs actions contre la sécurité de l'Iran sont incompatibles avec la constitution irakienne et les relations bilatérales amicales, car aucune partie ne devrait être autorisée à porter atteinte à la sécurité des voisins de l'Irak, a déclaré le plus haut diplomate iranien. Il a ajouté que l'Iran était favorable à un Irak indépendant, prospère et développé, soulignant que Téhéran et Bagdad entretenaient des liens étroits. Pour sa part, Talabani a salué le soutien continu de l'Iran au gouvernement et à la nation irakienne. « Nous sommes fiers de nos relations et de notre amitié avec la République islamique d'Iran. » Il a mentionné les mesures prises par son parti pour renforcer la sécurité le long des frontières de la région du Kurdistan, soulignant que l'Irak ne permettra pas que des dommages soient causés depuis son territoire aux pays de la région, en particulier l'Iran. Le Yémen a l'un des taux de contamination par les mines et autres explosifs meurtriers les plus élevés au monde, a averti la Croix-Rouge internationale CICR. En ce qui concerne la contamination par les armes, le Yémen, l'Irak et l'Afghanistan sont les trois pays les plus touchés. C'est vraiment dévastateur et cela a un impact très important sur les gens, leur sécurité, mais aussi leurs moyens de subsistance, a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR pour le Moyen-Orient, 9 ans après le début de la guerre civile dans ce pays pauvre de la péninsule arabique. La présence de munitions non explosées est massive, a souligné Carboni. La contamination est si importante et si répandue que vous ne serez pas en mesure de tout décontaminer si le conflit prenait fin aujourd'hui, a-t-il encore dit. Les experts estiment qu'au moins 1 million de mines y ont été posées durant le chaos, ce qui constitue un danger quotidien avec les obus non explosés et d'autres débris. Les mines terrestres, les obus non explosés et autres armes ou munitions laissées durant les combats ont tué et blessé 1469 civils tout au long de ces 5 dernières années. Le Centre exécutif de lutte contre les mines du Yémen a déclaré plus tôt ce mois-ci que les bombes à fragmentation et les munitions non explosées utilisées par la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite ont coûté la vie à des dizaines de civils le mois dernier. Le Centre a fustigé les Nations Unies pour la suspension du financement des opérations de déminage au Yémen pour le 2e mois consécutif. La situation actuelle pourrait entraîner la mutilation d'un grand nombre de Yéménites, notamment d'enfants. L'Arabie saoudite et ses alliés régionaux, dont les Émirats arabes unis, ont lancé une opération militaire au Yémen en mars 2015. La coalition est alimentée en armes par les États-Unis et plusieurs pays européens. Les groupes de résistance palestiniens ont lancé des exercices militaires à grande échelle dans la bande de Gaza, siégée au milieu des menaces du cabinet d'extrême droite de Benjamin Netanyahou d'assassiner les dirigeants de haut rang de ces groupes. Les exercices baptisés Al-Rukn al-Shadid, pilier puissant, ont débuté mardi. dans divers quartiers de l'enclave côtière et ont impliqué diverses unités palestiniennes. Les combattants palestiniens ont anéanti des cibles désignées en mer en tirant des missiles et des roquettes de fabrication locale au cours de l'exercice, qui marque le 18e anniversaire du retrait militaire israélien de la bande de Gaza. Le ministère de l'Intérieur de Gaza a annoncé dans un communiqué que les opérations sur le terrain seraient également menées dans le cadre des exercices et que les forces de sécurité seraient également déployées conjointement. Le ministère a noté que les exercices comprendraient également des assauts contre les positions de l'ennemi hypothétique, en plus de vastes agissements d'unités de résistance, de véhicules blindés, d'ambulances et d'équipes paramédicales. Un convoi appartenant à la coalition dirigée par les États-Unis aurait transféré du matériel militaire, des munitions et du carburant depuis des bases américaines en Irak vers la Syrie voisine. Citant des sources anonymes, la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin a rapporté que le convoi était entré lundi soir dans l'est de la Syrie par le poste frontière de Faïch-Krabour dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien. L'armée américaine a renforcé ces derniers mois sa présence militaire en Syrie, un pays aux prises avec des terroristes soutenus par l'étranger depuis 2011. L'Irak a dénoncé à plusieurs reprises le déploiement comme étant illégal. Le mois dernier, le Pentagone a envoyé un convoi vers la base de la province de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie via le poste frontière d'Al-Walid entre l'Irak et la Syrie. Composé d'une cinquantaine de véhicules, le convoi a atteint le 14 août les bases américaines du champ de gaz naturel de Conico et du champ pétrolier d'Al-Omar. Le Pentagone affirme que le déploiement de ses forces et équipements en Syrie vise à empêcher que les champs pétroliers ne tombent entre les mains des terroristes Daesh. Damas, de son côté, maintient que ce déploiement vise à piller les ressources naturelles du pays arabe. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي.